VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Dans 5 minutes, l'Amérique est voix avec John Lindon, mais tout d'abord, les nouvelles. Au Burundi, ouverture du procès de 28 officiers accusés dans le coup d'État avorté de mai dernier, un procès qui met en relief la profonde division de l'armée burundaise. Idriss Fall.
Un de leurs avocats, maître Onésime Kabayabaya, a déclaré que le procès s'est ouvert à Gitega, dans le centre du pays. Il précise qu'il n'a pas pu parler à ses clients ni accéder à leur dossier. Agnès Bangiri-Tchenge, porte-parole du ministère de la Justice, dit que le groupe est accusé d'avoir tenté de renverser les institutions et d'avoir perpétré des assassinats et d'autres actes de violence. Parmi les accusés, le général Cyril Ndaï Roukié, ancien ministre de la Défense, et 5 autres généraux, dont le colonel à la retraite Bosco Daradangwa. Plusieurs leaders du coup d'État avorté du 13 mai dernier sont toujours en fuite. Depuis l'échec de ce putsch, le général Godefroy Niyombare n'est pas réapparu en public et n'a fait aucune déclaration. Mais le général Léonard Nganda Komana assure qu'ils n'ont pas baissé les bras et chercheront à renverser le président Pierre Nkurunziza. Vendredi, des combats ont opposé les loyalistes et les insurgés dans la capitale. Près de 90 personnes sont mortes, des civils pour la plupart.
Selon Refugees International, une ONG américaine militant pour la protection des personnes déplacées, des Burundais réfugiés au Rwanda sont recrutés par des groupes armés en violation du droit international. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG américaine dit s'être basée sur des renseignements collectés au Rwanda en septembre et octobre 2015, notamment dans le camp de réfugiés de Mahama, dans le sud-est du pays. Michael Boyce, l'un des rédacteurs du rapport, estime que l'armement des réfugiés rwandais, des réfugiés burundais au Rwanda représente non seulement une sérieuse violation du droit international, mais aussi une grave menace pour la paix au Burundi et l'ensemble de la région. En RCA, les bureaux de vote sont maintenant fermés dans l'enclave musulmane de Pékin-Saint à Bangui, l'un des secteurs où le vote pour le référendum constitutionnel de dimanche avait été prolongé de 24 heures en raison des violences, qui a fait 5 morts et 20 blessés au Pékin-Saint hier. Malgré ces difficultés, Julius Rufin Gwadebaba, le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, reste confiant dans le succès du processus électoral censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires.
Le déroulement de ce référendum est pour nous un test grandeur nature qui nous permet, là, maintenant, d'évaluer la situation et de prendre des mesures plus adéquates pour le prochain scrutin dont l'enjeu est plus important. L'Autorité nationale des élections se réunira pour évaluer la situation et prendre éventuellement la décision d'autoriser la poursuite de cette opération, non seulement à l'intérieur, mais dans certains pays où les Centrafricains n'ont pas pu, n'est-ce pas, faire le vote, soit à temps, soit carrément pas du tout, pour question de déploiement du matériel et autres. Comme je l'ai dit, nous devons aller de l'avant parce que c'est la seule issue de cette transition qui tire à sa fin. Et donc, les mesures adéquates seront prises. Je ne dirais pas qu'ils corrigeront toutes ces failles, mais au moins pour que nous organisions, là, d'ici là, un scrutin acceptable aux résultats acceptés.
Julius Rufin Gwadebaba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, au micro de notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, le mouvement chiite du Nigeria accuse l'armée nigériane d'avoir tué plusieurs centaines de ses adhérents dans la ville de Zaria, dans le nord du pays. Mais d'autres sources parlent de 20 morts, Salwa Jafari.
Tout a commencé, selon la version des militaires en tout cas, quand les membres du mouvement islamique du Nigeria ont monté des barricades, puis commencé à jeter des pierres sur le convoi du chef d'état-major. Tentative d'assassinat, selon l'armée, ce qui expliquerait l'opération d'envergure qui suivit. Parmi les victimes, l'épouse et les deux fils du leader du mouvement, Ibrahim Zakzaki. Il faut dire que les tensions entre chiites et militaires ne datent pas d'hier. Zakzaki lui-même a été emprisonné à plusieurs reprises. Le président du Forum des médias du mouvement islamique du Nigeria a affirmé, selon la presse locale, que le siège du Forum ainsi que la résidence du chef chiite ont été détruits. Ces meurtres étaient si brutaux, même les personnes blessées dans la fusillade ont été identifiées et tuées de sang-froid par des soldats, peut-on lire sur le communiqué du groupe.
Et pour terminer en Guinée, le président Alpha Condé a prêté serment aujourd'hui pour son second mandat de 5 ans. Plus de 10 chefs d'État africains ont fait le déplacement à Conakry pour son investiture, notamment le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique dans le cadre de cette émission de l'Amérique et vous. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. John Lyndon à la présentation, Michel Joseph à la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Le 13 novembre dernier, la ville de Paris a été le théâtre d'une série de fusillades et d'attaques suicides meurtrières perpétrées par trois commandos. Bilan, pas moins de 129 personnes tuées et environ 352 blessés. Une semaine plus tard, c'est Bamako, la capitale malienne, qui était le centre de la terreur avec cette fusillade doublée d'une prise d'otage terroriste intervenue à l'hôtel Radisson Blu le 20 novembre et qui a laissé sur le carreau environ 22 morts. Autre lieu, autre terreur, cette fois-ci ici aux États-Unis le 2 décembre dernier. 14 personnes trouvent la mort dans une fusillade à San Bernardino près de Los Angeles dans l'État de Californie. L'attaque est revendiquée par l'État islamique qui affirme qu'elle a été menée par deux de ses partisans. S'exprimant au sujet de cette attaque en Californie, le président Barack Obama a appelé les musulmans à faire plus contre le radicalisme. Alors question, qu'est-ce que les musulmans peuvent faire de plus pour lutter efficacement contre le radicalisme? C'est la question de ce vendredi dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 40. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique et pour nous accompagner dans cette émission ce vendredi, depuis Dakar, nous avons en ligne le professeur Boubé Namaywa, professeur de philosophie à l'Institut Cheikhanta Diop de Dakar. Le professeur Boubé est spécialiste de l'islam. Professeur Boubé, bonsoir. Merci pour votre disponibilité à participer à cette émission de l'Amérique et vous. Je commence par une question. Comment est-ce que vous définirez le radicalisme qui nous concerne ici?
Je le définirais comme l'expression, si vous voulez, d'un endoctrinement. C'est un manque d'ouverture et de lecture variée à propos de tout ce qui concerne la religion musulmane. Et aujourd'hui, ce radicalisme s'exprime beaucoup plus dans le sens de, mettons, des attentats, des attaques, des vies humaines qui disparaissent, etc. Autrement dit, il s'agit d'une tendance aujourd'hui à l'intérieur de l'islam qui est en train de prendre de l'ampleur à travers le monde et qui, en général, est téléguidée par certains pays qui les financent et qui tirent certainement un intérêt à ce que le monde ne puisse pas rester en paix, comme le préconisaient peut-être certains penseurs du XVIIIe siècle.
Alors, vous êtes professeur de philosophie, on l'a souligné il y a un instant. Comment est-ce que la philosophie peut aider à lutter contre le radicalisme?
Justement, il me semble que l'une des erreurs fondamentales que les religieux, d'une manière générale, ou les hommes qui adhèrent à une certaine religion, c'est d'oublier l'aspect philosophique. Et je vous rappelle que l'islam est une religion qui a entretenu un dialogue permanent, en tout cas à sa naissance et pratiquement jusqu'au XIVe siècle, un dialogue permanent avec la philosophie telle qu'elle se pratiquait déjà chez les Grecs. Et vous avez eu à un moment donné ce qu'on appelait la théologie rationnelle, plus connue sous le nom du Kalam Mutazilite. Et à l'intérieur de ce Kalam Mutazilite, il y a eu une petite fusion qui avait donné ce qu'on appelle le Kalam Ash'arite, qui était une expression beaucoup plus, radicale par rapport à l'usage de la raison. Le Kalam Mutazilite utilisait la raison pour comprendre le message de la révélation. Donc, ils allaient en profondeur de ce message et ne restaient pas simplement à la lettre.